Chapitre 4. 6 août 1914. Où ira-t-il d'abord? Je m'attendris en pensant à lui. Cependant, ce n'est pas le moment de s'abandonner aux sombres pensées, mais de se donner aux autres. Se faire tout à tous est une qualité que je préfère aux qualités plus héroïques. Cette douce, cette tranquille émanation de l'Évangile m'a toujours attiré. J'aime l'âme silencieuse qui rayonne paisiblement sur les siens et sur les événements. J'aime que le rayonnement soit si doux, si vaporeux, que nul ne pense à le remarquer, tout en sentant sa bienfaisante influence. La finesse de Christian a pénétré quelques-unes de mes idées sans que je les aie jamais exprimées, car il est une vie intime que la pudeur de l'âme voile soigneusement. Christian est religieux, mais pas à ma façon. Il n'apporte sur ce terrain aucune des nuances que je lui vois sur d'autres sujets. Il mène son âme d'un pas militaire. Il a un règlement, le suit sans dévier et, sûr du chemin, n'en cherche pas plus long. Sa vie intérieure se résume dans une foi nette, soutenue par une courte et simple pratique religieuse qu'il accomplit comme un ordre donné par son colonel. Moi, je bats les buissons, après quoi je cherche l'ascension, et mes perpétuelles découvertes dans le pays du Christ, pays de la plénitude du bien, me font une vie pleine de mouvements. Mais dans les existences unies, une nature sans relief comme la mienne se borne aux petites choses et j'ignore ce qu'elle ferait devant un terrible imprévu. Or, je prévois des phases où le courage devra puiser dans la source profonde des forces extraordinaires. Néanmoins, je reviendrai toujours au clair-obscur que j'aime avant tout. Peut-être, si on le savait, me blâmerait-on. Selon certaines écoles, le bien doit être plus évident. Pourtant, je mourrai, je le sens, dans l'impénitence finale. D'ailleurs, aller contre sa nature, c'est oublier le sage conseil de Boileau. Et je ris de me servir du vieux critique pour appuyer mes vues intéressées. 7 août 1914. Hier, interrompu par l'entrée d'Olga. Elle a reçu aujourd'hui la lettre d'une amie qui, fiancée, s'est mariée précipitamment à l'annonce de la guerre. « Tu vois, Marguerite, tu vois, je parlerai à père pour que nous saisissions le premier moment propice. » Je lui rappelai son cri spontané qui m'avait tant plu. Tous les projets personnels s'effacent devant les intérêts généraux. « Sans doute, Marguerite, mais depuis, j'ai réfléchi. »« Depuis, c'était mardi dernier, » dis-je en souriant. « Qu'importe, crois-tu qu'en 48 heures je n'ai pas réfléchi ?» Dans quelque temps, marions-nous avec 4 témoins. Soyons heureux seulement quelques jours, si plus est impossible. Ah, Marguerite, Rémi sera peut-être tué. Lui et tant d'autres, hélas. Et j'oubliais Rémi pour penser à Christian, qui partait plein d'enthousiasme, sans arrière-pensée sur lui-même. Olga pleurait. Néanmoins, je m'efforçais de la dissuader de son idée. Je craignais un surcroît de préoccupation pour mes parents. Mais son cœur est complètement pris par une affection nouvelle, pauvre petite Olga. Et puis, j'oubliais ses façons séduisantes quand elle veut obtenir une faveur. Mon père, sollicité tendrement dans la journée, a promis de donner son consentement dans le cours de la guerre si M. de Cerdeau insiste pour se marier. « Il insistera !» m'a dit Olga à l'oreille. J'observe toujours avec intérêt l'effet du charme féminin. Moi-même, je me laisse prendre à la grâce d'Olga. Pourtant, je la blâme un peu. Les fêtes personnelles paraissent si minuscules dans cette atmosphère chargée de grandeur, de grands actes et de grandes paroles. 10 août 1914. Tous les trains étant mobilisés, je suis partie avant-hier en automobile avec Olga, pour aller à 150 km chercher une parente malade que nous ne voulions pas laisser seule dans son manoir. Déplacement inutile, car elle était déjà partie et installée dans un couvent. « Quel bonheur !» me dit Olga. « Nous sommes bien mieux entre nous !» J'avoue que je partageais sa satisfaction. Notre voyage, qui n'avait plus aucun but pratique, nous a paru du moins singulièrement intéressant. L'entrée et la sortie des moindres villages étaient gardées militairement. Nous exhibions sans cesse nos passeports et les notables de l'endroit, entourant la voiture, nous questionnaient, pendant que les paysans, coiffés du képi rouge, le fusil à la main, postés de place en place, prenaient un air martial. Parfois, très vieux, ils étaient en même temps comiques et touchants. Aucun désordre et les précautions les plus utiles prises intelligemment. Devant un pont de chemin de fer, un soldat nous arrêta et le chauffeur goguenard lui dit « Vous êtes seul, nous ne ferions de vous qu'une bouchée, mon pauvre garçon. » Le souvenir de sa mine stupéfaite nous fait encore sourire. « Pourquoi tant de rigueur ? » demandai-je à un maire qui me questionnait minutieusement avant de me rendre nos laissez-passer. « Une automobile allemande est signalée, madame. Hier, 3 espions allemands ont été pris à 2 kilomètres d'ici. » Et nous partions pour être arrêtés au village suivant. Nous nous arrêtâmes dans une petite ville pour acheter des journaux. Les nouvelles se lisaient sur le pas des boutiques et se communiquaient avec un intérêt passionné, mais avec calme. Les propos que nous entendions n'avaient rien d'alarmant. Les visages étaient graves et les cœurs confiants. Je pensais aux belles paroles de M. Viviani. « Regardez la France telle qu'elle est. Elle a le torse droit, elle porte d'une main qui ne tremble pas le drapeau qui abrite nos espérances et nos fiertés. » Combien se trompaient ceux qui doutaient de la France. Avant la guerre, je combattais l'assertion que notre patriotisme s'amoindrissait. Je soutenais que, si la guerre éclatait, on verrait marcher le pays tout entier. Il marche sans forfanterie, sans enthousiasme exagéré, avec la claire vue de la réalité. Il s'élève à la hauteur des souvenirs glorieux de notre histoire. Les Allemands nous embêtent depuis si longtemps, me dit un paysan. Finissons-en avec eux, puisqu'ils veulent la guerre. Cette idée le soutenait, bien qu'il dût partir en laissant derrière lui femme et enfant. Mon père nous attendait avec impatience, car une dépêche l'appelait à E, où il restera quelque temps. Il est parti ce matin dans les rayons du soleil levant, au milieu des bruits joyeux de la nature qui s'éveille. Avec lui, dans la buée lumineuse, disparaissaient les années de bonheur, et le cœur de ma mère éclata lorsqu'elle s'assit sur le banc moussu, où, si souvent, près d'elle, il prononçait de tendres paroles. « Il reviendra !» dit Olga en l'embrassant. « Il ne ménagera pas ses forces, » répondit ma mère, « mais il remplit un grand devoir. À la grâce de Dieu !» Notre présence, encore plus le sentiment impérieux d'un devoir supérieur à tous les devoirs, contenait son angoisse. À 10 heures, nous avons reçu une courte et réconfortante missive de Christian. Il est dans le Nord et m'écrit « Nous ne sommes pas mélancoliques, dame Cendrillon, et je vous prie de suivre notre exemple, toi la première, car tu m'as paru, avec moi, un peu faiblissante. » S'il me voyait actuellement, il constaterait que je n'ai le temps ni de faiblir, ni de m'absorber dans mes inquiétudes. Nos nombreuses bêtes à cornes, sauf quelques têtes, ont été vendues pour le ravitaillement de l'armée. Nous avons regardé partir l'immense troupeau qui soulevait une poussière épaisse, dorée par le soleil couchant. Les hommes, chargés de les emmener, couraient, tempêtés, et les filles de laiterie, rangées sur la route, disaient « C'est dommage, mon Dieu, de si belles bêtes !» Les chevaux de l'usine sont réquisitionnés. 350 ouvriers sur 400 ont rejoint leur dépôt, c'est l'arrêt subi de notre industrie. Mais il faut mettre de l'ordre, liquider peu à peu un travail commencé et veiller à l'entretien des machines. J'ai envoyé Muret à Paris pour déposer au Crédit Lyonnais les 2/3 de la somme produite par la vente des bestiaux. Mais ma mère et moi avons décidé de garder assez d'argent pour faire face aux éventualités inconnues. Le mouvement d'une organisation nouvelle, ou plutôt notre désorganisation, les conseils que je lui demande sans cesse, sortent ma mère de ses tristes pensées. Son esprit net, pratique, et son caractère énergique la servent puissamment dans les conjonctures présentes. 17 août 1914. Nous sommes allés voir mon père à E. La chaleur était étouffante, les buffets dans les gares n'existaient plus, les soldats se pressaient autour de buvettes de fortune. Sur les quais, on circulait difficilement au milieu d'une foule presque compacte. des trains militaires, couverts de branches et de fleurs, traversaient les gares, salués par des vivats. Hâté, un train de chasseurs d'Afrique était arrêté en face du quai où nous attendions. Les wagons, les fourgons étaient bondés. Des chasseurs, assis sur le bord, les jambes pendantes, riaient et plaisantaient. Plusieurs descendaient pour se tremper la tête dans de grandes cuves pleines d'eau, posées de place en place sur le quai. Un sous-officier nous interpella gaiement. « Vous nous délivrerez des Allemands ?» dit ma mère en souriant. « Oui, oui, madame, soyez tranquille. Qu'en pense la jeune demoiselle qui se cache sous son ombrelle ?» Olga écarta son ombrelle et fit en riant un signe affirmatif. « Vous avez confiance en nous ? C'est bien, mademoiselle !» Notre train arrivant, nous lui dîmes adieu en lui envoyant un geste amical et nous nous installâmes dans un compartiment où se trouvait un jeune chirurgien de la marine marchande. Aussitôt, il parla de la guerre avec une confiance assurée, tranquille, qui me réconfortait, bien qu'elle vînt d'un très jeune homme. « Vous croyez à notre succès ?» dit ma mère. « Mais il ne fait aucun doute, madame, » répondit-il tranquillement. « Et comme tout se passe admirablement partout. Pendant cette belle mobilisation, les femmes se préparent à rendre des services. En attendant, à Bordeaux, où réside ma famille, elles vont à l'église pour les soldats, pour nous tous. C'est gentil, vraiment. Vous vous embarquerez bientôt ?» Oh, moi, je suis simplement chirurgien de la marine marchande. Mais nous pourrons bien sauter. Que voulez-vous ? Mourir ainsi est bien, ajouta-t-il du ton paisible qui contrastait avec l'image évoquée. Il nous plaisait par sa bonhomie, par le tranquille courage qui est le reflet d'un état d'âme à peu près général. À S, où nous changions de train, il descendit pour prendre nos sacs et nous lui serrâmes la main avant de nous séparer. « Il est sympathique, nous dit maman. Que deviendra-t-il ? Je pense à sa mère. » En route, nous apprîmes la mort du pape. Déjà, à T, j'avais entendu un ouvrier s'écrier « Hé, qu'est-ce que cela me fait, le pape ?» Et il s'était précipité pour lire une dépêche sur la guerre qui venait d'être affichée. J'eus l'explication de cette exclamation en apprenant la fin de Pie X. « Eh bien, dit quelqu'un indifféremment, on élira un autre pape. » Et cette nouvelle, qui en d'autres temps eût été un événement, passait dans l'indifférence complète. Dans l'hôtel, à E, des officiers et des soldats discutaient, heure par heure, les mouvements de nos armées en Belgique. Les uns vantaient certaines manœuvres de nos généraux, les autres disaient que rien n'arrêterait la ruée. « Nous l'arrêterons, je le crois. Mais où ?» me dit mon père. Il paraissait inquiet de Christian, dont nous n'avions rien reçu depuis la dernière lettre datée du 7. Mais il faut se cuirasser contre les mécomptes et les retards, c'est la consigne que je voudrais suivre, sans un poids si lourd sur mon cœur. Mon père partira incessamment pour la frontière, et ma mère est obsédée par une seule idée. Où ira-t-il ? Peut-être retrouvera-t-il son fils. En revenant, nous écoutions avec intérêt, autour de nous, les conversations. Un homme très distingué, qui causait avec un ami, parlait avec une assurance enthousiaste. « C'est la fatalité, c'est l'inéluctable pour l'Allemagne, disait-il. Elle est perdue. » Et cette confiance, cet entrain, réchauffait nos propres sentiments. Notre voyage s'est effectué tranquillement jusqu'à T, où notre train stoppa devant un convoi de blessés, le premier qui passait dans la région. Nous entendions des exclamations de pitié, mais le public conservait son calme. Après avoir mis 19 heures pour accomplir un trajet qui s'effectue habituellement en 5 heures, nous sommes arrivés à notre station. Minuit sonnait quand nous entrions dans notre maison. Pauvre maison !